Radio Prague, les informations. Bien le bonjour les amis et bienvenue à l'écoute de ce bulletin d'information. Les principaux titres ce lundi. Les Tchèques enlevés au Liban pourraient être toujours en vie. Les égyptologues tchèques découvrent une barque vieille de 4500 ans et début de l'épidémie de grippe annuelle en République tchèque. Les 5 Tchèques enlevés au Liban en juillet dernier pourraient être toujours en vie. Cette information a été publiée sur le site neovlivni.cz qui a indiqué qu'après plusieurs mois de mutisme, leur kidnappeur avait finalement tenté de prendre contact. Selon le site, les motifs de l'enlèvement seraient liés au destin de 3 étrangers accusés de coopération avec des terroristes placés en détention en République tchèque et qui devraient être extradés vers les États-Unis. L'authenticité du courriel envoyé est en cours de vérification par les services de renseignement. Selon l'agence de presse HTK, la République tchèque va fournir cette année 6 millions d'euros d'aide, les 2/3 pour le développement, le reste pour l'humanitaire, à destination de la Syrie. La somme doit être officiellement annoncée par le Premier ministre Bohuslav Sobotka ce jeudi, dans le cadre de la conférence des donateurs de Londres, où il sera question du financement des plans d'aide pour la Syrie et les pays voisins pour cette année. Le tribunal régional de Brno a décidé de maintenir en détention Kevin Dahlgren, cet Américain soupçonné d'un quadruple meurtre au printemps 2013 à Brno. Le jeune homme de 23 ans demandait sa libération sous caution. La cour, comme précédemment déjà le tribunal municipal de Brno, a estimé qu'il y avait un risque que Kevin Dahlgren tente de fuir le pays s'il était relâché. L'épidémie de grippe annuelle a débuté en République tchèque selon l'Institut de la Santé publique. Lors de la dernière semaine du mois de janvier, on recensait 1317 cas de grippe pour 100 000 habitants, soit une augmentation de 10,5% par rapport à la semaine précédente. L'Institut de la Santé publique remarque qu'il n'y a pas de différence notable entre les différentes régions. L'épidémie progresse partout de façon comparable. Les services de santé font état de 33 cas très sérieux et de 4 décès liés à la maladie. Les archéologues tchèques à Abou Sir en Égypte ont trouvé une barque qui serait vieille de 4500 ans. C'est ce qu'a annoncé le directeur de l'Institut d'égyptologie tchèque, Miroslav Barta, après une rencontre ce lundi au Caire avec le ministre des Affaires étrangères tchèque, Lubomír Zaorálek, et le ministre des Antiquités égyptien, Mamdou Al-Damati. Construite en bois et longue de 18 mètres, cette barque, découverte sur le site de la nécropole des fonctionnaires de l'ancien empire égyptien, date de l'époque de la 3e dynastie égyptienne, c'est-à-dire d'à peu près 2700 ans avant notre ère. Du football à présent, le milieu de terrain d'Arsenal Tomáš Hrušický a été touché à la cuisse ce dimanche face à Burnley et pourrait être indisponible entre 4 et 6 semaines selon la presse britannique. L'international tchèque est entré en cours de cette rencontre de Coupe d'Angleterre pour ce qui représentait son premier match de la saison. Il revenait en effet d'une blessure au genou pour laquelle il a été opéré en août dernier et qu'il a tenu éloigné 8 mois des terrains. On termine avec la météo. Le ciel reste largement couvert ce mardi, jour de la fête des Néla, comme toujours le 2 février. Le soleil tente cependant quelques percées ici ou là, et en particulier en Moravie-Silésie et au sud-est de la Bohême. Les températures vont de 9 à 13 degrés pour les maximales. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information que vous proposait Pierre Ménian. La suite du programme, c'est maintenant, et ça se passe en compagnie d'Anna Kubishta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission hebdomadaire sur Radio Prague et merci à Pierre Ménian pour son bulletin d'information très complet comme d'habitude. Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Lubomír Zaorálek, est en tournée au Proche-Orient. Première étape, l'Égypte, où il a inauguré un forum économique mais aussi rencontré les représentants de l'opposition syrienne. Les détails en début d'émission. À la fin de cette semaine, une pièce écrite par un jeune garçon du ghetto de Térézine va être jouée par par des élèves d'un lycée strasbourgeois, un projet lancé par Claire Auduit qui est à l'origine de la traduction de ce texte. Place à notre rubrique sportive en deuxième partie d'émission où il sera question du Rallye Dakar. Bonne écoute de ce programme. Je vous le disais en titre, le ministre des Affaires étrangères, Lubomir Zaorarlek, est jusqu'à ce mardi en visite de 4 jours en Égypte et au Sultanat d'Oman. Son voyage vise à approfondir les relations mutuelles entre la République tchèque et ses pays. S'il s'agit notamment du développement d'une coopération économique, le chef de la diplomatie tchèque traitera également de la situation de sécurité dans la région ou d'une grande exposition d'égyptologie préparée d'ici 2 ans dans le cadre du 60e anniversaire de l'Institut d'égyptologie tchèque. Plus de détails avec Alžběta Tichá.
La République tchèque cherche de nouveaux partenaires économiques. C'est dans ce sens que le ministre de l'Industrie et du Commerce a récemment effectué un voyage en Iran, suivi actuellement d'une visite du ministre des Affaires étrangères, Lubomir Zaorarlek, en Égypte et au Sultanat d'Oman. Si Oman représente un nouveau marché pour la République tchèque et que le chef de la diplomatie tchèque s'y rend pour la toute première fois, l'Égypte est un partenaire de longue date, comme l'explique Břetislav Turečík, spécialiste du Proche-Orient et enseignant à l'Université métropolitaine de Prague.
L'Égypte représente à long terme un pays important pour la République tchèque et précédemment pour la Tchécoslovaquie. De même que l'Union soviétique, la Tchécoslovaquie était l'allié de l'Égypte de Nasser. À cette époque, il y avait de grandes exportations d'armes tchécoslovaques vers l'Égypte, mais aussi, entre autres, d'importants échanges culturels. Donc, dans les années 1960 et 1970, la Tchécoslovaquie bénéficiait d'une renommée en Égypte qui persiste jusqu'à nos jours.
Le commerce entre l'Égypte et la République tchèque se développe constamment et ce malgré une période mouvementée après la révolution égyptienne de 2011. Avec une année record d'échanges tchéco-égyptiens en 2014, l'Égypte est désormais le plus grand partenaire de la Tchéquie dans la région. Quant au chef de la diplomatie tchèque, il s'agit d'une première visite diplomatique en Égypte depuis 4 ans. Accompagné de 23 représentants d'entreprises tchèques des secteurs de la défense et de l'aviation, Lubomir Zaorarlek a inauguré ce dimanche au Caire un forum économique et a signé un accord de coopération entre les deux pays. Břetislav Turečík poursuit en indiquant que cette signature pourrait ouvrir de nouvelles possibilités pour les sociétés tchèques sur le marché égyptien.
Ils cherchent de nouveaux produits compétitifs et les références du passé ne jouent pas un rôle très important. Parmi les articles que peut offrir la République tchèque, ce sont notamment des produits du génie mécanique ou des systèmes de transport. La délégation économique est donc composée de représentants de ces domaines.
Après sa réunion avec le ministre de la Défense et de la Production militaire, M. Zaorarlek rencontrera également son homologue égyptien et le président Abdel Fattah al-Sissi ce lundi. Si le gouvernement se félicite de cette coopération, Břetislav Turečík révèle quelques problèmes qui pourraient apparaître.
En ce qui concerne l'Égypte, j'ai des craintes sur les répercussions de la situation politique intérieure sur les relations de l'Égypte et des pays européens. Nous ne pouvons pas prétendre que l'Égypte est un pays démocratique. Il s'agit d'un régime semi-militaire avec des milliers de prisonniers politiques. Il se peut que les pays européens soient obligés de mettre en place certaines restrictions. Je crois que c'est en ce moment le plus grand risque.
Parmi les autres objectifs de ce voyage en Égypte, c'était notamment l'introduction d'une discussion sur la question sécuritaire dans la région. Monsieur Zaorarlek a à cette occasion reconnu que la diplomatie tchèque était en négociation avec le régime du président syrien Bachar el-Assad à Damas. En Égypte, le ministre a également rencontré les représentants de l'opposition syrienne au Caire. Après la réunion, il a affirmé que les priorités des opposants syriens sont identiques à celles du gouvernement tchèque et qu'ils s'étaient mis d'accord notamment sur la nécessité de mettre un terme aux violences et de créer ainsi les conditions pour permettre aux réfugiés syriens de retourner dans leur patrie. Le chef de la diplomatie tchèque a également souligné la nécessité des pourparlers entre l'opposition et les représentants du régime actuel qui se tient ces jours-ci à Genève. Il a néanmoins ajouté que le gouvernement tchèque ne souhaitait pas anticiper les résultats de ces débats. Lors de son voyage en Égypte, Lubomír Zaorálek a également visité le site archéologique d'Aboussir où des recherches sont menées depuis des années 1970 par l'Institut d'égyptologie tchèque qui peut se targuer de nombreuses réussites dans ce domaine, comme au début de l'année dernière avec la découverte du tombeau d'une reine pharaonique jusqu'alors inconnue. Prochainement, le ministre a promis d'accorder son soutien et son patronage à une grande exposition égyptologique organisée à l'occasion du 60e anniversaire de l'Institut qui se tiendra dans 2 ans dans le bâtiment du Musée national qui devrait être nouvellement inauguré en 2018 après une longue reconstruction.
En 1943, dans le ghetto de Térésine en Bohême, un jeune garçon de 14 ans, Hanusz Hachenburg, écrit une pièce de théâtre qui est une parabole du régime nazi. Avec humour, il parvient à raconter les horreurs de la guerre et du nazisme. Cette pièce a été traduite en français sous le titre « On a besoin d'un fantôme » par les soins d'ailleurs de notre collègue Alžbeta Tichá, et publiée et surtout mise en scène par Claire Auduit, docteur en études théâtrales à l'Université de Strasbourg et directrice artistique de la compagnie Rodéo Dames dans le cadre d'ateliers dans des écoles secondaires. Avec sa troupe du lycée Jean Rostand à Strasbourg, ils seront à Térésine jeudi et à Prague vendredi pour présenter la pièce. Claire Auduit nous rappelle comment elle a découvert l'existence de ce texte. On l'écoute.
J'ai fait une thèse de doctorat à l'Université de Strasbourg et je me suis intéressée au théâtre dans les camps de concentration. Et à l'occasion d'un voyage en République tchèque à Prague, j'ai eu l'occasion d'aller dans les archives du mémorial de Térésine. Je me suis mis à feuilleter pas mal de documents, pas mal de dessins, et notamment des archives qui avaient été conservées et qui concernaient un groupe de garçons de l'époque. Ce groupe de garçons avait imaginé tout un journal clandestin qu'ils ont écrit et diffusé pendant près de 2 ans. Et c'est au sein d'un manuscrit assez complexe et complet qui fait plus de 800 pages que j'ai eu la chance de découvrir la pièce « On a besoin d'un fantôme » écrite par Hanusz Hachenburg. La situation un peu humoristique et rocambolesque, c'est que je ne parle pas un mot de tchèque et que j'étais en train de feuilleter un manuscrit auquel je ne comprenais rien du tout. Et à la disposition de l'écriture sur la page, j'ai su qu'il s'agissait d'une pièce de théâtre. En fait, il y avait un nom ou un mot, 2 points et une phrase. À la ligne, un mot, 2 points, une phrase. Donc je savais que j'étais en face d'une pièce de théâtre écrite dans les camps de concentration.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler en 2 mots de quoi parle cette pièce ?
Alors la pièce « On a besoin d'un fantôme » évoque l'histoire d'un tyran, un analphabète premier, qui veut faire en sorte que tout le monde pense comme lui. Pour ça, il fait appel à sa garde rapprochée, les saucissons brutaux. Et le but d'un analphabète premier et des saucissons brutaux, c'est d'instaurer un système de terreur. Pour ça, ils vont essayer de faire appel à la délation de la population, récupérer toutes les personnes de plus de 60 ans, les envoyer au centre de ramassage où elles seront transformées en ossements humains afin de fabriquer un fantôme qui, lui, terrorisera la population.
Vous avez donc mis en place un projet autour de cette pièce avec des écoles. Alors, vous avez déjà fait ça à l'origine en Suisse. On en avait parlé sur Radio Prague. Vous avez aussi réitéré l'expérience de mise en scène en Alsace, donc avec un lycée de Haguenau et maintenant avec aussi un lycée, le lycée Jean Rostand à Strasbourg. Comment est-ce que réagissent justement les jeunes français, pour le coup, ou suisses, à la découverte de cette pièce écrite par un jeune qui avait finalement presque leur âge ?
Alors, au tout début, on est assez surpris, tous, que ce soit moi ou les élèves avec qui j'ai pu travailler, du texte. C'est-à-dire qu'il y a tellement de sous-textes, il y a tellement d'intelligence et de fulgurance que la pièce est difficilement compréhensible à la première, à la deuxième ou à la troisième lecture. Il va falloir s'y pencher un peu plus. Par contre, à partir du moment où les élèves ont compris qu'il s'agit d'une réécriture du national-socialisme, qu'un alphabète est Hitler, que les saucissons brutaux sont les SS et que le peuple terrifié représente les Juifs, à partir de ce moment-là, tout est très clair. Et je crois que ce que les jeunes retiennent, c'est l'audace, l'humour qu'Anouche a su décupler dans un endroit où finalement tout cela n'est plus permis. Dans un camp de concentration, réussir à rire, à divertir et à défier l'absurdité, c'est une grande gageure.
Vous allez jouer justement cette pièce à Térésine même, et puis un peu après au lycée Jan Neruda à Prague. Pour vous, c'était important de jouer cette pièce ici, et notamment à Térésine ?
Alors c'était un projet extrêmement symbolique et important d'aller jouer à l'endroit même où la pièce avait été écrite. Et en fait, on fait le parcours d'Anouche en sens inverse. On commence par Térésine, qui était pour lui la fin, puisque c'était l'antichambre d'Auschwitz, là où il a été assassiné à la veille de ses 14 ans. Donc on commence par jouer à Térésine, à l'endroit même où Anouche a osé rêver, a osé défier les nazis, a osé aussi divertir ses camarades. Et puis après, on ira jouer effectivement dans la ville natale d'Anouche, à Prague, au lycée français. Et puis on ira aussi se recueillir devant son ancien orphelinat, de là où il a été déporté avec sa mère.
Puisque cette pièce a été jouée aussi, j'imagine, devant un public, comment réagissent en général les gens à cette pièce ? J'imagine que vous discutez un petit peu avec le public après coup. Est-ce que les gens connaissent Térésine ? Est-ce que finalement c'est oublié aujourd'hui un petit peu ? Et ça permet un petit peu de réactiver la mémoire, et cette mémoire-là en fait. Hein.
Alors on commence toujours, avant de jouer la pièce de théâtre, par une recontextualisation qui est faite par les élèves eux-mêmes. Ils ont souhaité écrire un texte qui explique quel est le rôle de Térésine dans le système concentrationnaire. C'est pas un ghetto anodin, c'est l'endroit de propagande des nazis. Il était Anouche, ça aussi c'est eux qui ont écrit, ils se sont servis de tous les documents que j'ai pu retrouver, mais aussi de ses poèmes, et donc ils font entendre un petit peu sa voix, et seulement après, on se met à jouer la pièce. Entre cette présentation contextuelle et la mise en scène de la pièce avec les élèves, moi je prends la parole et j'indique aux spectateurs qu'il est tout à fait recommandé d'oser rire s'ils en ont envie. Une seule fois, je ne l'ai pas fait. Les spectateurs étaient extrêmement mal à l'aise. J'ai vu qu'ils auraient eu envie de rire, mais qu'ils se retenaient. Il y avait un problème de moralité qui ne permettait pas finalement de rire de tout ça. En fait, c'est le but d'Anouche, de faire rire ses camarades, de nous faire rire, de rendre ridicule le tyran Hitler, donc un analphabète, et d'oser rire un petit peu de toute cette absurdité et de toute cette angoisse.
Oui, donc il y a un vrai travail en fait à la fois avec finalement les élèves hein, qui jouent la pièce et le public. C'est vraiment un espèce de dialogue, j'imagine, permanent quoi, entre les deux.
C'est difficile à présenter, il faut vraiment recontextualiser, qu'il n'y ait aucun malentendu. Qui a écrit cette pièce, dans quelles circonstances ? Anouche risque sa vie en écrivant cette pièce. Je crois que ça aussi c'est important de le préciser. Pour qu'on comprenne un peu la puissance de son engagement et sa très grande lucidité et maturité. Anouche ne sait pas du tout ce qui se passe à Auschwitz. Il n'en a pas les moyens, il n'en a pas les moyens matériels. Il entend par contre des rumeurs, des bruits de couloir. Il va se nourrir de tout ça et il va transformer ça en une fable qui malheureusement est tout à fait en lien avec la réalité puisqu'elle annonce l'extermination des Juifs d'Europe dans des centres de ramassage qui sont en fait des camps d'extermination.
Et on passe tout de suite à la deuxième partie de notre émission avec notre rubrique sportive. En janvier 1986, Karel Loprais participait au volant d'un camion Tatra T815 pour la première fois de sa carrière à ce qui était encore appelé le Paris-Dakar. Sextuple vainqueur de l'épreuve, celui qui est depuis surnommé Monsieur Dakar a grandement contribué en l'espace de 17 participations à la popularisation du rallye auprès du public tchèque. 30 ans plus tard, ce parfait connaisseur de l'Afrique et du Sahara a repris la route en direction du Sénégal. Parti du centre de Prague samedi, Karel Loprais devrait arriver au lac Rose, qui était le lieu traditionnel de l'arrivée du Dakar le 10 février prochain. Mais cette fois, c'est avec une toute autre ambition que de faire la course que celui qui reste un des plus célèbres pilotes de camions au monde s'était lancé. C'est ce qu'a expliqué au micro de Guillaume Narguet, Jan Reinisch. Lui aussi amoureux du désert africain et passionné d'automobile, Jan Reinisch est accessoirement l'interprète du team Loprais et de cette expédition baptisée Rêve de Dakar.
Sport en République tchèque.
Alors, l'objectif, surtout, c'est de fêter 30 ans de Karel Loprais. C'est la première fois que Karel Loprais a participé au Paris-Dakar avec son Tatra. Donc, l'idée, c'était de vraiment faire le même parcours comme Karel Loprais il y a 30 ans. Mais vis-à-vis des complications, surtout au point de la sécurité dans la région, on a dû changer l'itinéraire.
Oui, parce que donc, on va le préciser, le parcours en 1986, donc le rallye s'appelait Paris-Alger-Dakar, passé par l'Algérie, par le Niger, le Mali, le Burkina Faso, avant d'arriver au Sénégal. Or, pour vous, c'est un parcours qui est devenu, en raison de l'actualité et de la situation en Afrique, dans la région, voilà, dans le centre de l'Afrique, impossible.
Voilà, on était en communication avec l'ambassade de l'Algérie ici. On a essayé de trouver la possibilité quand même de passer par Agadez, mais la frontière malheureusement avec Niger est fermée. Donc on avait une autre idée, et c'était de passer par la zone de Polisario. J'ai beaucoup communiqué là-dessus. L'idée, c'était donc de passer par l'Algérie et descendre par Mauritanie. C'est une frontière qui est justement contrôlée par le Front Polisario, mais c'était très compliqué aussi. Donc on n'a pas arrivé à trouver la permission pour passer par ce parcours-là. Donc finalement, la seule possibilité en ce moment pour traverser le Sahara, mais ce n'est pas vraiment le vrai traversée de Sahara, parce qu'on prend donc la route qu'on appelle Western, c'est-à-dire par Marocco, la partie donc de Sahara...
Le Sahara occidental.
Le Sahara occidental, et après par Mauritanie. Donc Mauritanie, et on termine au Dakar. Après, donc, le deuxième but aussi de ce voyage, c'est d'amener de l'aide humanitaire à deux orphelinats à Dakar. Et on va tourner un film documentaire justement sur Karel Loprijs et son premier rallye Paris-Dakar.
En tant que Tchèque, vous allez donc participer à cette expédition. Que représente le nom de Karel Loprijs et ce rallye Dakar ?
Alors Karel Loprijs, c'est vraiment un nom qui, pour beaucoup de Tchèques, représente un héros, parce qu'on parlait de lui beaucoup, surtout dans la deuxième partie des années 80. C'était encore donc l'époque de communisme chez nous. Moi, j'avais de la chance, je me suis retrouvé justement en Algérie à cette époque-là. J'étais en Algérie jusqu'à 86. Donc j'étais à Alger quand Karel Loprijs sortait de bateau, à partir de Marseille. Donc pour moi, c'est très touchant justement de pouvoir partir après 30 ans avec lui pour fêter son premier voyage. Et donc c'est quelqu'un dont on a écouté beaucoup dans la radio. C'était avant la révolution, mais même après la révolution, parce que il était vraiment c'était Monsieur le Dakar.
Comment expliquer que les autorités de l'époque en Tchécoslovaquie, les autorités communiste, et autoriser la participation de Tatra, constructeur automobile Tatra, à une course, le Paris-Dakar, qui était très, très occidentale.
Alors, moi, je pense qu'il y avait surtout des raisons économiques, parce que Tatra était une voiture de vraiment très, très bonne qualité, ce qui était approuvé justement plusieurs fois au rallye Paris-Dakar. Et c'était un de nos articles importants de l'exportation. De Tatra, l'usine construisait pas seulement des voitures pour des raisons, disons, normaux, mais aussi militaires, ce qui était très important. Donc c'était un article, cette marque était aussi connue comme une marque militaire, et République tchèque, à cette époque-là, était un des plus grands exportateurs des armes dans tout le monde entier. Et les armes, ça c'était pas seulement les armes pour tirer, mais c'était aussi des voitures et toutes les autres. Donc une des raisons importantes était surtout économique.
En 1986, s'est donc tenue la 8e édition de ce rallye Paris-Dakar. C'est une édition qui a été marquée par la mort de son fondateur, Thierry Sabine. On sait que pour Karel Loprijs, c'était un personnage important. Initialement, dans votre projet, vous teniez à lui rendre hommage. Ce n'est pas possible parce que ses cendres ont été dispersées dans le désert du Ténéré au Niger, et que c'est donc un endroit par lequel vous ne pouvez pas passer. Néanmoins, que reste-t-il de cette volonté dans votre projet de rendre hommage à Thierry Sabine ?
Alors, au début, on voulait choisir donc le parcours pour pouvoir passer par la région à Niger. Ça, ce n'est plus possible. Donc, on n'a pas vraiment sur le trajet un lieu qu'on pourrait lier à lui rendre l'hommage, même si ça reste toujours un de nos buts. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous dire où exactement et comment on va lui rendre hommage pendant notre trajet. On n'a pas prévu quelque chose de concret. mais il reste avec nous et on va penser à lui.
Vous y allez, vous y participez en tant que traducteur, qu'interprète. Que représente pour vous personnellement cette participation et puis cette expédition ?
J'ai un grand rêve depuis mon enfance que j'ai passé en Algérie. Et parce que j'ai pas mal voyagé avec mes parents, avec la vieille Skoda 105 dans le Sahara algérien. On a fait pratiquement toute l'Algérie, la Tunisie, même Maroc aussi. Mais j'ai une ville qui, pour moi, reste toujours une ville un peu mythique, parce que je ne l'ai jamais visitée, c'est Taman Rasset. Et donc j'aimerais bien, mon rêve, c'était, depuis mon enfance, c'est de traverser le Sahara, mais donc sur le trajet de l'ancien Paris-Dakar, donc par Taman Rasset et Agadez, en Niger. Je ne l'ai jamais fait, et même cette fois-ci, je ne vais pas le faire. La dernière fois, je l'ai essayé avec mes amis. On est parti en 2005 avec une voiture des années 50, c'était un Volkswagen T1. On passait par Tunisie, par Libye, et par Libye, on a entré en Algérie, dans la région vraiment d'extrême du sud, par Djanet. Et on a retourné, en fait, après au nord, et on a retourné avec la même voiture jusqu'à la République tchèque. Mais même cette fois, à cette époque-là, on voulait traverser. On avait déjà trouvé un ancien camion Tatra, mais finalement, on était plusieurs dans l'équipe. On était 12. Après, il y avait des gens qui ne pouvaient pas partir. On est resté 4. Donc, finalement, on n'a pas arrivé à le faire. J'ai pensé que cette fois-ci, je vais l'arriver, mais des conditions surtout sécuritaires ne nous le permettent pas. Donc, au moins, je vais traverser la partie de côte de l'ouest. Je vais faire la route occidentale, parce que la route qui m'attire le plus, c'est la route centrale, donc par Taman Rasset.
Vous évoquez vos souvenirs d'enfance avec cette voiture, la Skoda 105, dans laquelle vous voyagez dans le Sahara avec vos parents. Comment se déplace-t-on avec une telle voiture dans le Sahara ? Parce que traverser le désert avec un camion Tatra, c'est une chose. Se déplacer avec une Skoda, c'est autre chose.
Alors, les Skoda 105, bien sûr, c'était pas prêtes pour... on ne pouvait pas vraiment naviguer dans la dune. Mais c'était quand même toujours une voiture qui était assez bien. Ce qui était une des choses, c'était que la traction est en arrière, ce qui permet mieux de naviguer, surtout ici en République tchèque, c'était pratique en hiver. Mais on a découvert que même pour le sable et le fèche-fèche, ça passe mieux. C'est pas un 4x4. Donc vraiment, on peut pas s'aventurer comme avec des 4x4. Mais ça marchait assez bien. Mon père a dû faire quelques changements dans le moteur. Il a dû sortir surtout pour la contrôle de température parce que les Skoda se chauffaient trop. Il a dû avoir beaucoup de pièces détachables. Et on partait toujours en plusieurs voitures. On n'était pas tout seul, on était encore avec des amis pour pouvoir s'aider, etc. Donc, mais c'était une époque qui est complètement différente par rapport à la nôtre. Maintenant, on a des navigations satellites. Avant, c'était vraiment juste la boussole, la carte et les informations des gens dans les régions.
Ce qui était la même chose d'ailleurs pour les participants de Paris-Dakar. Du rallye à l'époque.
Ouais. Exactement. Oui. Ça change tout.
Voilà. Mais bon voyage alors, Yann Ranich, et merci.
Merci beaucoup. Merci.
C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague. Merci de l'avoir suivi. Évidemment, tous ces sujets, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, le www.radio.cz/fr. Radio Prague est aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à consulter notre page Facebook, mais aussi notre page Twitter. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.